Quiconque aura une connaissance de l'évangile et l'aura dédaigné, même sans rejet explicite, sera réprouvé également, de même que ceux qui auront fait mine de se convertir pour finalement se rétracter. Une question demeure, qu'adviendra-t-il de ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile? Faute d'en avoir explicitement entendu parler, ils ne peuvent ni accepter, ni rejeter le Christ. Les versets 27 et 28 sont parmi les plus encourageants du Nouveau Testament concernant la miséricorde de Dieu pour ceux qui n'ont pas été atteints par la lumière de l'évangile. Afin qu'ils cherchent Dieu pour le trouver, si possible, en tâtonnant. Ici, en Actes 17-27, Paul confirme qu'il est possible pour un païen de saisir Dieu en tant que créateur en contemplant ses œuvres. En Romains 2, versets 10 à 16, il est plus clair encore, alors je lis un résumé de ces 7 versets. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne, c'est-à-dire car Dieu ne fait pas de favoritisme. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des humains. Voilà. Alors, en revanche, en Romains 1:20, Paul explique que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voyant fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages, les impénitents sont inexcusables puisqu'ayant vu Dieu, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Alors, voilà, il y aura un jugement et nous voilà rassurés quant à la justice de Dieu à l'égard de ses créatures. Quand je dis il y aura un jugement juste, si je puis dire. Donc toutefois, la nécessité alors d'annoncer l'évangile à tous, afin qu'ils croient et soient sauvés, demeure impérieuse. Il y a un mystère qui reste, hein. Il y a un jugement par les actes, avec une nécessité toujours de prêcher l'évangile. Le destin des païens, qui, faute d'avoir entendu parler de Jésus, ne se convertissent pas, demeure effectivement un mystère, et le commandement d'évangélisation demeure intact. Malheur à moi si je n'évangélise pas, selon 1 Corinthiens 9:16. Nous retiendrons de ces versets le fait que, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'intuition de son existence en contemplant la création, qui est son œuvre et notre cadre de vie. Et notre propre corps, notre propre cœur, nous révèle Dieu. C'est ce qu'on appelle en théologie la révélation générale, la Bible étant la révélation spéciale en Jésus. Ceux qui ne connaissent pas Dieu n'en sont pas moins de sa race, selon le verset 20. Ils sont un peu comme les infortunés qui sont nés de pères inconnus et croient discerner les traits de leur père dans le reflet que leur renvoie le miroir. Idem pour les gens qui, comme moi, ont perdu leur père dans l'enfance. En vieillissant, je discerne de plus en plus les signes distinctifs de mon père terrestre dans mes mains et mon visage qui vieillissent et dans ma chevelure brune qui s'illumine peu à peu comme la sienne dans ces dernières années. De la même manière, l'enfant de Dieu qui ne connaît pas son Père Céleste en discerne les signes distinctifs en lui-même et dans son cadre de vie. Alors nous sommes de sa race, nous les humains. De nombreuses reprises, le Nouveau Testament nous dit que ce sont les chrétiens authentiques, ceux qui ont reçu Dieu par Jésus, qui sont pleinement enfants de Dieu sur le plan spirituel. Mais tous les êtres humains sont, de par la création, de sa race, donc sur un registre qui n'est pas un registre spirituel, ils sont enfants de Dieu. Ce qui fait de nous tous des frères et sœurs en humanité. La paternité de Dieu en tant que créateur implique que tous les êtres humains sont frères et sœurs, égaux aux yeux de Dieu, et que cette égalité, nous devons la reconnaître. Ceci nous renvoie à un verset que nous avons lu la semaine dernière dans le récit de la création, Genèse 1:27. Nous lisons dans la Bible à la colombe, comme dans la plupart des traductions en français, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Ce verset est très mal traduit. Cette version laisse entendre qu'on pourrait comprendre que l'homme, en tant qu'être de sexe masculin, a été créé à l'image de Dieu, ce qui ferait d'ailleurs de Dieu un être sexué, et qu'ensuite la femme a été créée, en quelque sorte comme un sous-produit, si je puis dire. Alors, tout en reconnaissant qu'il y a des passages dans la Bible qui ne brillent pas par leur féminisme, du fait des conséquences du péché et du contexte culturel, il est important ici de clarifier les choses. Le verset dit en réalité, si on le traduit littéralement, « Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, mâle et femelle il les créa. » si on revient, on reprend vraiment bien, bien ce verset traduit littéralement, c'est donc l'être humain, mâle et femelle, homme et femme, qui a été créé à l'image de Dieu. La première des violences et la plus répandue sur la planète, le sexisme et toutes les formes de violence contre les femmes en tant que telles, ne sont pas dans le plan de Dieu. Dieu est amour, et dans son amour, il a fait toutes ces créatures humaines de sa race, sans hiérarchie. Quoi que l'on veuille faire dire à la Bible, il n'est jamais question dans la Bible d'une quelconque supériorité de telle ou telle partie de l'humanité sur le reste de l'humanité. Aucun sexe, aucune race, aucune nation n'est considérée dans le texte biblique comme supérieure. Alors je ne parle évidemment pas des interprétations abjectes qui ont fait malheureusement florès au sein de la chrétienté historique et de ses nombreuses dérives. Je parle du christianisme conforme à la source, du christianisme du Christ, si je puis dire. Alors, imaginons un instant que toutes les nations de la Terre prennent conscience qu'elles sont issues d'un seul, c'est-à-dire que nous sommes tous enfants d'Adam, comme le rappelle le verset 26, et que tous, imaginons que tous, nous agissions en conséquence, comme des frères et sœurs. Retenons que de notre amour pour Dieu doit découler un amour profond pour ses enfants. Et la plupart d'entre nous avons sans doute à l'esprit l'exemple de frères et sœurs qui se déchirent et qui, ce faisant, brisent le cœur de leurs parents. Il en va de même avec Dieu. Si notre amour pour lui est sincère et fort, nous aimerons non seulement nos frères et sœurs spirituels, celles et ceux qui partagent nos convictions chrétiennes, mais aussi toutes celles et tous ceux qui sont la race de Dieu, créés par le même Père céleste et issus des mêmes parents terrestres, Adam et Ève. Cet amour pour tous, découlant de notre relation à Dieu, est au cœur de l'enseignement de Jésus. Jésus qui déclare, citant deux versets de la Torah, en Matthieu 22, versets 37 et 38, donc Jésus déclare, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour de l'amour de Dieu découle l'amour du prochain. C'est à toute l'humanité que Dieu adresse les déclarations d'amour paternel que nous lisons dans la Bible. Nous lisons en 1 Jean 3, 1, 2, « Voyez quel amour le Dieu nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Alors certes, ce verset concerne l'amour spécifique de Dieu pour les enfants ses enfants spirituels, les chrétiens authentiques, puisqu'il y a une opposition entre les enfants et le monde. Mais cependant, toute la Bible proclame que Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité, 1 Timothée 2, 4, et soient englobés dans cette relation pleinement filiale. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu s'adresse en père à tous les désespérés sans distinction. En Ésaïe 49, 15, « Une femme oublie-t-elle son nourrisson, n'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles, quand bien même elle l'oublierait, moi je ne l'oublierai pas. » En Ésaïe 55, versets 1 à 7, je résume. « Ô vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, tendez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et le vaurien ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. » Le comble de l'amour de Dieu pour nous tous, c'est que c'est à tous, sans distinction, qu'il offre le salut en Jésus crucifié et ressuscité. Nous lisons en Jean 3, 16, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse, croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et en Romains 5, 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Prions. Père, merci pour ton amour, rends-nous dignes d'être appelés tes enfants en manifestant tous les jours par nos actes, nos paroles et nos pensées, notre amour pour toi et pour tes enfants. Amen.